Je crois que nous sommes dans une période électorale. J'étais pas trop au courant. J'avais reçu une lettre de Nicolas Maisonnet et je me suis dit, ah tiens, c'est le député qui me contacte. Il veut rencontrer les cultes. Donc j'en parle au conseil qui me disent, mais non, 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 il est candidat. Je suis, ah, d'accord. Donc ben, j'attendrai de voir s'il est élu ou pas pour le rencontrer. En attendant, je ne rencontre aucun candidat. Je reste complètement neutre. Mais pour vous dire que j'étais pas forcément au courant. Et donc bientôt, on va être appelé à glisser un bulletin dans l'urne pour élire notre prochain maire. Et nous sommes entourés de discours. Nous recevons des livrets exposant les projets, les arguments, les sujets. Les candidats s'affrontent pour la mairie de Vauvert, de Beauvoisin, de Marciargues, de Haubord, Aymar, Codognan, Bouillargues, je sais pas. Encore sans doute d'autres villes que nous représentons. Et tous ces discours tentent de nous convaincre de choisir le parti, d'accorder notre confiance à telle ou telle autre personne. Mais qu'est-ce qui va rendre un discours plus convaincant qu'un autre? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour accorder notre confiance à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre? Alors, ça a été très étudié. Il y a plein de moyens qui sont employés pour gagner les convictions des citoyens et des citoyennes. Puis, plus petits éléments du design, du prospectus, la texture du papier, la qualité des photographies, la forme des polices d'écriture, les couleurs. Bien évidemment, les rencontres, démarchages dans les rues. D'autres stratégies parfois sont employées, moins glorieuses, tout aussi redoutables, pour rabaisser le camp adverse, exciter la colère et la rancœur contre eux, pour, à défaut de gagner des voix par adhésion, au moins en gagner par opposition. Le but, c'est de gagner, séduire, convaincre, soulever contre l'autre, semer le doute. N'importe quoi est bon. Comment gagner des voix? Parfois, dans les églises, on réfléchit un peu à cette manière, à la méthode, quelle est la bonne manière de remplir les bancs de l'église, d'être pertinent, de rejoindre, d'évangéliser avec efficacité pour avoir du résultat, des nombres. Mais le texte que nous allons lire ce matin de Paul nous interpelle précisément sur cette question de la méthode. Mais avant de lire les Écritures saintes, je vous propose de prier avec moi. Père éternel, tu es esprit invisible, caché. Mais nous cherchons à t'entendre et à te comprendre pour t'obéir. Rassemblés en peuple, nous lisons les écrits de tes prophètes et de tes apôtres, afin que par eux, tu nous parles encore aujourd'hui. Que ton esprit nous donne d'entendre ta voix aujourd'hui et qu'il me donne à moi de parler pour toi. Amen. Avant de lire Paul, je vous propose de lire un autre texte. Pour ceux qui veulent suivre, c'est Jonas 3. Jonas 3. Tout le chapitre. C'est pas très long. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. Il y a eu le poisson avant. Lève-toi, pars à Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. Alors Jonas se leva, se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée. C'était une ville prodigieusement grande, où il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée !» Et les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner, chacun, du plus petit au plus grand, et revêtirent la tenue de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un habit de deuil et s'assit dans la cendre. Et puis, il fit proclamer dans Ninive un décret,
Par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres humains, ainsi que le gros bétail et le petit bétail, ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit. Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, et que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être que Dieu reviendra sur sa décision et renoncera à sa grande colère, et nous ne fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs actions mauvaises, il revint sur sa décision et n'accomplit pas ce qu'il avait, le malheur qu'il avait, dont il les avait menacés. Jonas, pour moi, est un des pires prophètes de son temps. Il ne voulait pas obéir à Dieu, il a cherché à fuir sa mission, puis quand Dieu l'a plus ou moins contraint, bah, il espérait que sa mission foire complètement. C'est possible. Parce qu'il voulait qu'aucun des habitants de Ninive se repente, il voulait que son message passe à côté et que la colère de Dieu tombe sur eux et que la ville soit rasée. Voilà. Donc, quand on lit tous les autres prophètes, on ne trouve pas beaucoup de prophètes qui sont là à dire oh, pourvu que ça ne marche pas. Hein, on a plutôt Jérémie qui prie, puis Dieu qui dit non, maintenant tu arrêtes de prier, Jérémie, mais il continue quand même, persévère. Et... Vous voyez, Jonas était un prophète du nord, la partie nord du royaume des Juifs. Et la ville de Ninive de l'époque, c'était un peu la capitale de la superpuissance menaçante et politique de la région. Des décennies plus tard, c'est cette capitale, Ninive, que Jonas a sauvée, qui va déporter le royaume d'Israël. Alors on comprend qu'il ne voulait pas vraiment sauver la ville de l'avertissement de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il a fui, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine. C'est pour ça qu'il a été recraché sur l'autre rive. Et là, bon, il se dit, bon, je vais quand même y aller, quoi. Donc, contraint, il prêche un jour dans une ville tellement grande qu'il faut combien de jours? 3 pour en faire le tour. Donc, il a fait un tiers de la ville. Il a une prédication minimaliste, d'accord? Il ne prêchait pas à 35 minutes, lui, hein. Dans 40 jours, vous êtes tous fichus. Non, Jonas, il faut que tu parles de la repentance, il faut que tu expliques qu'il y a une espérance si on revient vers Dieu, que Dieu, il préfère pardonner le pécheur plutôt que de punir le méchant. Enfin, tu as tout ça à dire, Jonas. Non, non, non. Dans 40 jours, c'est fini. Il se barre. Peut-être que le lendemain, il serait retourné. Peut-être, je ne sais pas. Mais il va connaître un succès qu'aucun autre prophète de toute la Bible ne connaîtra. Il prêche une journée dans une ville qui fait 3 jours, et alors toute la ville se repent. Même le roi entend ce qui se passe, il n'entend pas directement la prédication de Jonas, mais il porte le sac et la cendre, hein, comme on dit, ça veut dire il se s'humilie. Il publie des décrets et même les animaux domestiques n'ont plus le droit de manger et de boire. Hein. Paf. Ça paraît même excessif comme repentance. Est-ce que on se dit bah on devrait peut-être imiter Jonas et parcourir Vauvert et Beauvoisin en criant dans 40 jours. Je sais pas. Non. On se rend bien compte qu'il n'est pas question de chercher, dans ce qui s'est passé là, une méthode à imiter. L'histoire de Jonas nous montre que si Dieu veut, même un prophète récalcitrant ne l'empêchera pas d'aller chercher son but. Les moyens humains ne sont pas ce qui rend l'évangile convaincant. Le message de Dieu repose avant tout sur Dieu. Voilà la chose qu'il faut extraire de Jonas. Maintenant, on passe à 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. « Quand je suis allé chez vous, frères et sœurs, pour vous annoncer le projet du salut révélé par Dieu, mais je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances importantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ, et même Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible, tout tremblant de crainte. Mon enseignement, ma prédication n'avait rien des discours de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. Jusqu'ici encore, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle très brièvement le contexte de cette lettre de Paul. Les chrétiens de Corinthe ont reçu l'évangile grâce à lui, lorsqu'il était missionnaire. Les années sont passées, d'autres sont venus à Corinthe poursuivre le travail, l'apôtre Pierre, un certain Apollos qui était un évangéliste. Et puis, au bout d'un certain temps, une logique, une idéologie partisane a divisé l'Église. Oui, moi je suis de l'école de Paul, moi je suis de l'école de Pierre, ah non, moi je suis de l'école d'Apollos, et blablabla. Et l'Église s'est retrouvée divisée. Bon, on ne fait pas les fiers, hein. 2000 ans plus tard, l'Église n'a jamais été aussi riche en division, ou en tout cas, on va dire en diversité, pour être positif. Et particulièrement, nous, les protestants, on a un petit appétit rare pour la division. Et Paul rappelle donc que lorsqu'il est venu annoncer le mystère de Dieu, ou le projet de salut de Dieu, si vous voulez, il a veillé, il a pris soin, il a fait exprès que ce ne soit pas par un discours grandiose ou très sage ou impressionnant avec des mots compliqués qui laissent les gens étonnés. Il voulait, et c'est le sujet de la prédication, que leur foi repose sur la parole de Dieu et non pas les paroles humaines. Je le répète, il voulait que leur foi repose sur la parole de Dieu et non sur des paroles humaines. Donc la question c'est, sur quoi repose ma foi? Alors, je reviens sur les élections. On préfère avoir des leaders politiques charismatiques. Nous aimons ceux qui présentent bien, qui parlent clair et qui sont beaux, éloquents, intelligents. On apprécie moins quand nos ministres, nos élus, nous embarrassent ou se comportent d'une manière qu'ils ne trouvent vraiment pas digne ou abusent de leur pouvoir, de leur autorité. Quand ils sont mis dans des situations difficiles ou humiliantes, ça nous touche, ça nous affecte. Alors que dire d'un leader, un guide, injustement condamné à mort? Paul, lui, n'élude pas la croix de Jésus. Paul ne cherche pas à dire, bon, je vais vous parler de Jésus. Oui, je sais, il y a cette histoire de la croix. Mais ce n'est pas ça la vraie question. Je crois qu'il faut revenir sur les vrais enjeux du sujet. Et ce n'est pas la croix de Jésus. Ce qui intéresse les Français, c'est... Ben non. Jésus, au contraire, il dit, moi, je suis venu vous voir en ne connaissant que Jésus. Et même Jésus crucifié. Pour dire, ça, non, ça ne m'embarrasse pas. Ça, c'est tout le centre. Si vous passez à côté de ça, vous passez complètement à côté de Jésus. Jésus crucifié, ce n'est pas gênant, comme disent mes ados. Papa, t'es gênant. Ça ne veut pas dire que Paul ignore tout le reste. Genre, il parle que de la croix. Non, il parle de plein d'autres choses. Ça veut dire qu'il ne regarde pas la croix comme quelque chose qui le repousse, qui lui fait honte. L'histoire qu'il raconte, l'évangile qu'il proclame, c'est l'évangile du Jésus. Oui, oui, celui qui a été abaissé. Oui, celui qui a été condamné, bafoué, humilié, fouetté, moqué, puis crucifié jusqu'à la mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Amen. C'est lui, le Christ que Paul annonce. Il n'annonce pas un Christ glorieux à la façon des humains. Fort physiquement, beau, à la réputation impeccable, avec la petite barbe hipster, nickel, et des alliés puissants et riches qui le rendraient intouchable. Non, il prêche le Christ, l'unique, le vrai, qui de riche s'est fait pauvre, qui de puissant s'est fait faible, qui invincible s'est laissé vaincre, qui immortel s'est laissé mourir, qui innocent s'est laissé condamner, qui Dieu s'est fait homme. Le Christ, le moyen par lequel Dieu réconcilie l'humanité avec la divinité, les cieux avec la terre. Il devient homme, Dieu, pour pacifier le monde visible et le monde invisible. Est-ce que je veux annoncer un autre Christ? Est-ce que je veux suivre une autre version de Jésus, plus facile à imiter, plus accessible, un produit plus vendeur? Paul dit non, jamais. Et je prie le Seigneur qu'il me garde, moi, d'en proclamer un autre. Sentez-vous libre de m'avertir si vous avez l'impression qu'un jour, j'annonce un Christ un peu plus facile. Alors Paul est passionné de ce Christ. Il veut annoncer son Seigneur. Mais ce qu'il ne veut pas aussi, c'est qu'on confonde l'évangile avec l'évangéliste. Il ne veut pas qu'on échange le message du messager. Il ne veut pas que la foi des Corinthiens repose sur le discours persuasif de Paul. C'est pour ça qu'il écrit: Je me suis présenté faible, tout tremblant. Mon enseignement, ma prédication n'avait rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. C'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Comme la prédication pourrie de Jonas, dit mais on va pas attraper des mouches avec le vinaigre. Hein. Mais il y va, il dit, dans 40 jours, la ville est détruite. Et ça marche. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit divin en faisait une démonstration convaincante. Comment il fait? Je ne sais pas. Ça marche. Paul voulait faire comme Jonas, mais pour d'autres raisons. Il voulait profondément que les Corinthiens se convertissent, à la différence de Jonas, qui rencontre le Christ ressuscité également, mais il n'a pas pour autant multiplié les figures rhétoriques, les images, les démonstrations logiques, les thèses, antithèses, synthèses. Il ne voulait pas que la foi des Corinthiens ait pour fondation la logique humaine. À ce propos, le réformateur Calvin a écrit cette idée que je trouve lumineuse. Si la prédication de l'apôtre s'appuie sur la seule force de l'éloquence, elle peut être renversée par une autre éloquence plus grande. C'est implacable. Si ma conversion, Ah oui, le christianisme, ah oui, Jésus repose sur un discours très convaincant, et c'est tout. Si c'est ça la fondation de ma foi, le jour où je croise un discours encore plus convaincant, par un orateur encore plus brillant, et il continue, Calvin, en disant, personne ne dit que la vérité solide est fondée sur le beau parler. La vérité solide ne repose pas sur le beau parler. Souvenez-vous, lors de la campagne des élections 2027, c'est pas le beau parler qui fait la vérité solide. Autrement dit, si vous croyez en Dieu parce que le prédicateur est brillant ou parce qu'il parle trop bien, que se passera-t-il le jour où un autre prédicateur plus brillant vous annoncera un autre Dieu? Ou que se passera-t-il si ce prédicateur brillant chute? Parce que oui, les prédicateurs chutent. Priez pour vos pasteurs.
se laisse capturer par le péché, que se passera-t-il pour votre foi? Ainsi, ce n'est pas parce que le discours est éloquent et les phrases sont bien tournées que ce qui est dit est vrai. Paul cherche une autre fondation pour la foi en Christ. Paul écrit « Ainsi, votre foi ne reposera pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. » Que veut-il dire par puissance de Dieu? J'ai déjà un peu expliqué. Je ne crois pas qu'il s'agisse des miracles, des signes surnaturels, des prodiges. Je pense que s'il y a un miracle, c'est justement de ce qu'un témoignage simple d'un homme sans éclat, comme l'était Paul à l'époque, produise un tel fruit. La puissance de l'Esprit qui est déployée, c'est celle qui transforme un simple témoignage en une preuve évidente. Il transforme un simple partage sincère de ce qu'on a en nous en une démonstration éblouissante. C'est pas que je vais me mettre à commencer timidement en disant « Oui, bah, tu sais, moi je crois en Jésus » et puis que les mots vont venir et que je vais faire une démonstration éblouissante. Non, non. C'est que l'Esprit va prendre ces petits mots-là, il va transpercer des cœurs avec. Paul écrit « Mon enseignement, ma prédication n'avait rien des discours de la sagesse humaine. » Mais la puissance de l'Esprit divin en faisait une démonstration convaincante. La foi, mes frères et sœurs, n'est pas une adhésion à une idéologie, à un ensemble de valeurs morales, éthiques. La foi n'est même pas qu'une culture dans laquelle on grandit ou dans laquelle on rentre et qu'on apprend. La foi n'est pas un ensemble de pratiques qui codifient notre vie et que l'on suit collectivement ou individuellement. Toutes ces choses peuvent faire partie de la foi, oui, mais elles ne sont pas la foi. Au final, la foi, c'est pouvoir faire confiance à Dieu envers et contre tout, envers et contre tous. C'est l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémané, que nous allons bientôt réentendre à l'occasion de Pâques. C'est croire qu'il nous pardonne nos péchés, croire qu'il va nous relever d'entre les morts, croire contre toute espérance. La foi, c'est dépendre de Dieu et non des êtres humains. Mais comment fonder une telle certitude? Sur quoi je bâtis cette foi pour que tous les assauts de l'enfer, les tempêtes de la vie, les souffrances, les maladies ne la jettent pas par terre? Car il en faut une grande certitude pour qu'elle perdure malgré ses assauts. La fondation, les grosses pierres qu'on met sous le bâtiment pour qu'ils ne tombent pas, hein, qu'ils ne bougent pas. La fondation, mes frères et sœurs, c'est Dieu nous a parlé réellement. Dieu nous a parlé réellement. Là, Dieu nous a parlé réellement, ça veut dire, je crois qu'il a parlé par les prophètes et je crois qu'il a parlé par les apôtres. Mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il m'a parlé à moi aussi. Je vis une relation aujourd'hui avec le Christ ressuscité, une relation de communion, une relation d'esprit. Dieu nous a parlé réellement. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous suivons n'est pas une invention humaine. N'est pas une invention humaine. Alors quand nous disons que la foi doit reposer sur la parole de Dieu, souvent on brandit la Bible, je viens de le faire. En vrai, la Bible, ce sont les Écritures saintes. La vraie parole de Dieu, c'est celle qui soutient le monde aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il est écrit, en Jean 1, justement, il est écrit, « Au commencement était la parole. » C'est ça, la parole de Dieu, sur laquelle nous repose notre foi. Parce que la Bible ne va rien faire pour moi au jour du jugement dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la parole de Dieu, de Christ, va faire pour moi au jour du jugement dernier. C'est sur lui, cette parole-là, que repose ma foi. La parole qui a créé le monde et qui l'a maintenue jusqu'à aujourd'hui me dit aussi, si tu viens à moi, je te donnerai la vie éternelle. La même. Donc je crois que Dieu a parlé et je crois que Dieu m'a parlé. Et c'est cette parole qui est la fondation de mon espérance. Paul, il veut rester petit, discret et secondaire par rapport au message de Dieu. Et la foi ne vient pas de l'éloquence, mais elle vient de cette conviction transperçante, bouleversante que Dieu nous a parlé à nous humains et il m'a parlé à moi. Jésus est le sauveur des humains et de ce monde. Ce monde lui appartient. Il va un jour rendre la justice, restaurer un ordre parfait entre les nations, entre les humains, entre eux et la nature. Aujourd'hui, il appelle celles et ceux qui aspirent à ce futur, toutes celles et ceux qui veulent une nouvelle vie, toutes celles et ceux qui ont besoin de pardon, toutes celles et ceux qui ont besoin de justice, d'une justice à venir, venez à lui, en croyant qu'il est là, invisible, spirituel, mais réel. Même ceux qui voudraient croire mais qui n'y arrivent pas, venez à lui, appelez-le pour voir, pour tester, pour être sûr, on ne sait jamais. Et la puissance de Dieu fera de toute petite chose une démonstration fiable dans votre cœur. Je vous le dis. Amen.
Merci Timothée.